conférence du cycle que nous organisons avec l'École doctorale Sciences de l'Homme est ouverte aussi au grand public. Donc Thierry Houquet est un habitué de la maison puisqu'il est venu l'année dernière pour la journée d'études que nous avons organisée sur sexe, genre et société. Donc je lui ai demandé de revenir cette année. Il acceptait avec gentillesse comme d'habitude, nous parler du cyborg. Donc Thierry, je te présente en espérant ne pas faire de bêtises puisque j'ai un texte, comme ça je ne me tromperai pas. Donc tu es spécialiste de philosophie des sciences naturelles et de la philosophie des Lumières. Tu as enseigné de 1999 à 2012 à l'Université de Paris 10 Nanterre, où tu as été recruté comme maître de conférence en 2004. Et depuis le 1er septembre 2012, tu es professeur de philosophie des sciences à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Donc tu es aussi correspondant à l'Institut de France, membre de l'Institut... Membre de l'Institut universitaire de France. Voilà, excuse-moi Thierry. Donc tu as écrit des ouvrages sur Buffon, Buffon-Linné, Darwin contre Darwin, La virilité, à quoi rêvent les hommes, Cyborg-philosophie, Pensée contre les dualismes, Paris le seuil, donc, que j'ai à votre disposition là si vous voulez le voir. Et puis là, tu vas nous parler de cyborg double face. Nous t'écoutons avec plaisir et je te prie de m'excuser pour toutes les bêtises que j'ai dites.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Voilà, le cyborg philosophie, c'est un livre qui est paru déjà il y a 2 ans, en fait, en 2011. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est plutôt, en gros, les réflexions qui sont venues après le livre, c'est-à-dire aussi... des réflexions qui sont nées de la déception liée au livre et ce qu'il fallait faire après le livre. Voilà, donc c'est un peu le chantier qui s'ouvre après. Pourquoi je parle de déception ? C'est au sens où le livre, en fait, il est sorti en même temps qu'un livre notamment de Jean-Didier Vincent sur la transhumanie. Et donc, il a été reçu comme un livre sur le transhumain, en fait, sur le post-humain, le transhumain, alors que ce n'était pas prioritairement mon objet. Mon objet, c'était plutôt de réfléchir sur... les dualités, les dichotomies, la manière dont la figure du cyborg nous obligeait à penser différemment un ensemble de problèmes comme nature-artifice, donc ici mécanique-technique, mécanique-organique ou technique-organique, nature et artifice en gros, hein, mais également la relation des humains à leurs outils. Donc... c'était toutes ces questions que je voulais poser en travaillant aussi à partir de la figure de Donna Haraway qui pense le cyborg dans une perspective féministe. Et je voulais essayer de comprendre ce que ça voulait dire que de faire du cyborg une figure très militariste finalement, d'en faire une figure féministe, une figure du quotidien des femmes. Donc c'était toutes ces questions que j'ai posées. En fait... quand j'intervenais sur la question des cyborgs, régulièrement, c'était les mêmes questions qui revenaient. Donc, c'est ces questions-là que j'ai décidé de mettre au premier plan et dont je vais traiter ce soir. Alors, la première des questions qui revient tout le temps, c'est en fait une demande de situation, de prise de position philosophique face à ce gros débat technophilie, technophobie. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on attend du philosophe, c'est qu'il prenne position... sur les grands sujets de société pour donner une voix à des résistances en particulier, ou bien donner une voix au contraire à un enthousiasme, c'est-à-dire on me demande d'embrasser finalement l'un ou l'autre des pôles de l'opposition, c'est-à-dire de dire si c'est bien d'aimer les techniques ou si c'est mal. Et pourquoi c'est mal et au nom de quoi il faudrait résister, etc. Donc c'est vraiment cette opposition qui est structurante et à laquelle je me suis souvent trouvé confronté, alors que pour moi, il n'y a pas à répondre à cette question. Donc c'est le premier pas de côté que je voudrais faire, et c'est pour ça que j'ai appelé mon intervention de ce soir « Cyborg double face ». Bon, à gauche, vous avez des figures enthousiastes, hein, on va dire, de la technique. Alors ça commence avec Linné qui montre qu'on peut faire pousser des bananes aux Pays-Bas en utilisant des serres. Des serres chauffées. Vous avez Warwick qui s'implante des puces dans l'organisme. Vous avez Yves Rossi, alias Fusion Man, qui traverse les cieux grâce à son, et les mers grâce à son aile volante. Puis à l'inverse, alors j'ai appelé ça technophobie, mais c'est plutôt, disons, la peur de l'union à la technique. Et l'idée que, en s'unissant à la technique, l'humain, en fait, commet un péché d'excès, qu'on appelle en grec hubris. Hein. Et donc là, c'est Icare, dont vous voyez les petites jambes s'agiter tout en bas, à côté du bateau. Il est tombé pour avoir voulu voler trop haut. Donc c'est un peu ces deux figures, hein, qui polarisent le débat. Alors du côté de ceux qui veulent nous mettre en garde contre la technique, je prends deux jalons pour rendre les choses un peu concrètes. René Barjavel, Ravage 1943, qui donne vraiment l'idée de une sortie nécessaire peut-être du monde technique, du monde des technologies avancées, puisque le roman commence dans un décor futuriste, placé sous le signe de Le Corbusier. On est le 3 juin 2052, une époque où on fait Paris-Marseille en une heure, et il y a un train, c'est-à-dire une automotrice à suspension aérienne, toutes les 5 minutes. Il existe même un conservatoire des défunts, où on peut non seulement avoir une galerie des ancêtres, mais aussi faire revivre ou voir revivre ses ancêtres. Donc il peut parler à sa grand-mère, etc. Mais en fait, on est très vite confronté à la chute des villes et on trouve cette phrase « La nature est en train de tout remettre en ordre. Soudain, tout s'arrête, la lumière s'éteint, les avions s'arrêtent en plein vol, les rames de train au milieu des tunnels, l'énergie n'opère plus, ou bien peut-être n'y a-t-il plus d'énergie et personne ne comprend la cause. Tout le monde subit cette défection soudaine de la technique. Les piles, les batteries, les accus, tout est vide. » Et également, c'est étrange, mais toutes les pucelles sont victimes d'évanouissement avec cette baisse de l'électricité. Donc vous avez cette crise finalement, ce monde qui s'effondre et à travers un chemin de cendres se reconstitue une forme de patriarcat, c'est la fin du livre. Le patriarche qui reconstruit une société polygame où l'écriture est réservée à une élite et où le peuple doit rester attaché aux solides réalités. Le patriarche donc qui s'appelle François Deschamps, le bien nommé, se lance dans une grande tirade. Les hommes ont perdu ou se sont perdus parce qu'ils ont construit des machines pour épargner leurs peines, pour remplacer leurs gestes et leurs efforts. La technique est donc le mal. Dans le monde nouveau post-apocalyptique, il n'y aura pas de machines. Alors bon, on pourra discuter de ce texte, hein, si vous le souhaitez. On rabat souvent Barjavel sur un péténisme, parce que c'est un texte qui a été écrit pendant la guerre, mais de fait, c'est un texte dont Barjavel s'est expliqué par la suite, qui a été écrit sous l'influence de la vie dans Paris occupé, c'est-à-dire une ville où justement toutes les ressources étaient devenues rares et qui étaient engorgées de son trop grand nombre d'habitants. Donc, voilà un premier exemple de crainte de la technique ou d'idée. Finalement, ce qui gêne ici, c'est la dépendance dans laquelle nous nous trouvons face à la technique. Et la version philosophique de ce thème romanesque, c'est, il me semble, ce que nous donne Jacques Ellul dans Le système technicien en 77, où on a l'autonomie relative de la technique qui tend à devenir une hégémonie, puisque l'univers technologique est désormais un monde avec ses régulations propres qui étendent leur emprise sur la plupart des pratiques humaines. Alors face à ces visions d'une technique qui est à la fois omniprésente et qui constitue finalement une source d'affaiblissement pour le dynamisme humain, il me semble que les propos tenus par Samuel Butler dans les années 1860, offre un pas de côté intéressant. D'abord, en 1863, Butler publie dans la presse néo-zélandaise un petit texte qui s'appelle « Darwin parmi les machines » qu'il reprendra dans son utopie Erewhon. « Darwin parmi les machines », c'est pour Butler une manière de proclamer l'avènement d'une nouvelle forme de vie, c'est-à-dire il n'y a plus seulement les végétaux et les animaux, il y a également les machines. Et proclamer l'avènement de cette nouvelle forme de vie, c'est dire que nous devons désormais partager les écosystèmes avec eux, partager les ressources, donc, en énergie. C'est un thème qu'on retrouve dans Matrix, la fameuse trilogie cinématographique. Mais également accepter que les machines se servent de nous dans une certaine mesure. Elles se servent de nous pourquoi ? Elles se servent de nous pour se reproduire, par exemple. Nous sommes donc les organes de reproduction des machines. Donc, ce n'est pas seulement que nous sommes en compétition avec les machines pour la maîtrise des ressources énergétiques, c'est également que les machines nous utilisent comme leurs organes de reproduction. Mais Butler ne s'en tient pas là, il publie d'autres textes, toujours de manière anonyme dans la presse néo-zélandaise, et notamment en septembre 1863, un autre texte signé de Lunaticus, le correspondant fou. Et ici, l'auteur propose différents excès, en fait. Tout d'abord, il présente un homme qui veut se débarrasser de toute machinerie. Il ne veut pas de vêtements en tissu, il ne veut pas de maison... de maison en dur, donc il veut juste prendre un abri dans une grotte ou sous un arbre, et il va jusqu'à prétendre priver les poules de leurs coquilles d'œufs. Il dit c'est encore trop de machinerie finalement tout ça. Mais finalement, au milieu du texte, sa famille disparaît, tout le monde s'en va parce qu'il rend la vie impossible à sa femme et à ses enfants. Et donc sa famille l'abandonne, et alors, que décide-t-il ? Par haine du genre humain, il décide au contraire d'épouser inconditionnellement la cause des machines. C'est-à-dire il devient donc le prophète forcené des machines, non pas parce qu'il pense que les machines sont un bien, mais parce qu'il pense par là hâter le déclin de l'humanité. Donc, pour hâter la disparition de ses congénères, il décide de développer au maximum, le plus rapidement possible, des machines. Donc il passe d'une tentative de fuir le plus loin possible des machines et d'éliminer toute trace de machinerie dans sa vie, ce qui est un truc impossible, comme le montre le départ de toute sa famille, au contraire à une sorte de cause forcenée du machinisme, mais avec l'idée qu'à terme, c'est la destruction du genre humain qui est visée. Donc ici, dans chacun de ces textes, on voit... la difficulté ou l'impossibilité qu'il y aurait à se soustraire du monde mécanique, quand bien même l'humain devrait s'y perdre. Enfin, dans un troisième texte qui s'appelle « Lucubratio et Bria », où vous avez cette citation que vous pouvez lire, en fait, il dit que les techniques créent différents types d'humanité. Ce ne sont pas les races qui divisent l'humanité, dit-il, c'est l'accès aux techniques. Il y a des riches et il y a des pauvres. Il y a des humains qui peuvent s'adjoindre des cabines dans des paquebots qui leur permettent de traverser les océans. Et puis il y a d'autres humains qui doivent aller à pied et donc qui ne sont pas capables des mêmes choses. Et donc pour Butler, dans ce texte-là, la question du rapport à la technique, c'est une question sociale. C'est une question sociale, et la question du cyborg, elle s'introduit ici par cette capacité qu'ont certains humains de s'adjoindre une portion d'un des bateaux P&O, d'adjoindre donc une portion de ces bateaux à leur identité, et donc d'élever leur organisation. Alors, c'est un texte qui est très intéressant justement par la force avec laquelle il présente la question cyborg sous un angle politique et social. En même temps, c'est un texte... qui est décrit comme une lucubratio et bria, c'est-à-dire comme un rêve d'ivrogne, si vous voulez, un rêve aviné. Voilà. Donc, bon, est-ce que c'est vraiment pris au sérieux par Butler ? Tous ces textes-là sont toujours pleins d'ironie, mais en tout cas, je pense que leur ironie permet de soulever un ensemble d'ambiguïtés. Donc, c'est deux faces du cyborg. Alors, d'où viennent ces ambiguïtés ? D'une part, je vais repartir de la distinction entre humain, post-humain, transhumain, et d'autre part, je vais essayer de repenser la philosophie de la technique à partir de ces questions. Alors, j'ai inclus donc un développement sur humain, post-humain, transhumain dans mon propos, puisqu'il s'agit d'un cycle de conférences sur l'origine des sciences humaines ou l'histoire des sciences humaines. Donc, il me semblait que c'était important de passer par là. Mais disons, d'abord... comment définir les humains et comment la définition de l'humain ouvre à la question du cyborg. D'abord, il me semble qu'il faut tirer quelques conséquences de l'évolutionnisme darwinien. Pas les conséquences qu'on tire d'ordinaire sur la morale évolutionniste, etc., mais l'idée que Du point de vue d'une philosophie de la nature darwinienne, l'humain est une créature contingente. Vous vous souvenez peut-être des propos de Stephen Jay Gould dans La vie est belle, qui disait que si on repassait le film de l'évolution deux fois, le dénouement ne serait pas le même et en particulier l'apparition de l'humain ne serait pas nécessaire. Ce que nous apprend le darwinisme aussi, c'est que les espèces sont soumises à un destin d'extinction, que la durée de vie des espèces n'est régie par aucune loi et qu'il ne semble guère qu'une espèce puisse durer toujours. Donc l'humain, c'est une forme qui est marquée deux fois au sceau de la contingence. La première fois, c'est relativement à son origine. Elle aurait aussi bien pu ne pas apparaître, mais également, deuxième fois, donc relativement à sa destinée, elle pourrait aussi bien cesser d'être. Donc, on a une vision où l'humain, où l'histoire pourrait tout à fait se faire sans les humains. Ça, c'est la version un peu perplexe, un peu de la leçon perplexe du darwinisme relativement à l'humain. Par ailleurs, il y a une leçon plus positive aussi qui est que le darwinisme offre une philosophie qu'on peut appeler nominaliste, c'est-à-dire une sorte d'éloge de la différence individuelle qu'on retrouve dans des films comme les X-Men, par exemple. C'est-à-dire, ici et maintenant, en chacun de nous, se joue peut-être déjà l'avenir de l'espèce. C'est-à-dire, il y a une sorte d'espérance qui est portée par la figure des mutants et qui fait que le darwinisme... Enfin, pour le darwinisme, la vie est une histoire où toute mutation, toute différence individuelle a valeur d'événement qui aurait pu ne pas être et qui, par là même, engage l'avenir. L'avenir donc de l'espèce et peut-être un avenir au-delà de l'espèce. Alors, c'est un thème qui a été amplement développé par la fiction, puisque donc, du point de vue d'une génétique des populations, cette diversité est une richesse qui permet, par exemple, de faire face à l'adversité et qui permet aux humains de surmonter des perturbations écologiques, de nouveaux virus, etc. Donc voilà, en gros, peut-être la leçon qu'on tire de cette philosophie des mutations, des différences individuelles, mais il faut bien comprendre que d'autres théories de l'évolution, par exemple une théorie qui ferait place aux symbioses, a suscité également d'autres histoires de l'humanité possibles, une histoire de l'humanité qui engagerait des hybridations interespèces, et c'est ce à quoi Donna Haraway fait référence, notamment quand elle évoque des échanges viraux entre les humains et les espèces domestiques comme les chiens. De cette symbiose, de cette vie en commun, ont aussi émergé des individus différents. Donc on a l'histoire d'une évolution contingente à laquelle on peut ajouter l'idée d'une prise en main de la destinée humaine par elle-même. Et c'est ça qui nous conduit naturellement de l'humain, défini darwiniennement, au transhumain. Finalement, si la conséquence de l'évolutionnisme, c'est l'idée que toute espèce, finalement, n'est pas une essence métaphysique, mais est le produit d'une histoire contingente, si donc toutes les espèces au fil de l'histoire s'éteignent inexorablement, alors... Non seulement l'humain est en droit d'agir en retour sur sa propre histoire, qu'aucune instance métaphysique ne vient ordonner, et peut-être même qu'il est du devoir de l'humain de prendre en charge son évolution, voire l'évolution de l'ensemble du monde vivant, afin de la conduire vers le mieux, afin d'introduire donc une rationalité, peut-être, ou des préceptes esthétiques, par exemple, dans une histoire qui a été produite à l'aveugle par la sélection naturelle. Donc le transhumanisme apparaît tout d'abord dans ce cadre évolutionniste, matiné d'une sorte d'eugénisme plus ou moins soft. C'est-à-dire, j'appelle eugénisme soft ici, un eugénisme, on va dire, libéral plutôt que pris en, en charge par l'État, un humanisme qui éviterait plutôt les tares ou les maladies et qui ne chercherait pas à éliminer des humains. Voilà. Mais donc le terme transhumanisme, il est proposé par Julian Huxley en 1957, qui note « C'est comme si l'homme avait été subitement nommé directeur général de l'affaire la plus importante, l'affaire de l'évolution, nommé sans avoir été consulté, sans qu'il ait été prévenu et préparé. Et de plus, il ne peut pas récuser cette responsabilité. » Voilà. Donc l'humain est devenu le point déterminant de la direction de l'évolution sur la Terre. Donc voilà le sens du transhumanisme, avec cette idée que l'enjeu, c'est désormais de reculer les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire de faire advenir ce qui doit l'être, c'est-à-dire faire advenir la réalisation la plus totale des potentialités humaines par l'individu, par la communauté ou à travers les espèces le long de l'aventure processionnelle, dans la coulée du temps. Donc c'est une phrase un peu compliquée, mais qui montre bien que le transhumanisme joue à plusieurs niveaux. Il s'agit de tirer le meilleur de l'individu, mais aussi du collectif, et même, avec cette mention de « à travers les espèces », donc même un objectif interspécifique. Il s'agit de faire advenir des formes supérieures, et Huxley qualifie ce point en disant qu'une forme supérieure d'organisme est celle qui a davantage réalisé les possibilités inhérentes à la substance vivante. Donc évidemment, toutes ces formules sont sujettes à différentes interprétations, mais ce qui importe ici, c'est de bien comprendre que pour Huxley, les voies de l'évolution sont en quelque sorte prédessinées. Et ces voies nous indiquent que l'avancée majeure qui s'est produite depuis le Cénozoïque, dit-il, c'est celle de la progression du cerveau et de l'esprit. Donc cet eugénisme libéral, ce transhumanisme, il doit nous conduire d'abord vers un perfectionnement de l'esprit. Et de même qu'on a reculé les colonnes d'Hercule, eh bien désormais il s'agit d'explorer la nature humaine et de découvrir les possibilités qui lui sont offertes pour cela. Donc voilà le thème général un peu, je m'en tiens là pour le transhumanisme, on pourra revenir sur ce thème, mais je voudrais le distinguer d'emblée de ce qu'on appelle le post-humanisme. Ce que j'appelle ici post-humanisme, c'est l'idée que, justement, qui prend appui sur le thème transhumain tel que je viens de l'exposer, c'est-à-dire l'avènement d'une intelligence, donc, mais d'une intelligence qui ne serait plus l'intelligence organique produite par l'évolution, mais de l'intelligence artificielle susceptible d'être placée dans différents supports électroniques ou biologiques. Et par post-humanisme, donc, on entend l'idée d'obtenir l'immortalité en dupliquant les êtres humains dans des machines. Donc, par post-humanisme, on désigne en général ces tendances qui considère que des dispositifs techniques comme le téléchargement de la conscience sur différents supports pourraient fonctionner. Donc une sorte d'adieu à la chair ou de relais d'une évolution technique relais de l'évolution organique par une évolution technique. Ce qui est frappant dans ces réflexions, c'est une certaine conception de l'identité humaine qui place au premier plan la question de l'intelligence, c'est-à-dire la question d'une structure d'information plutôt que l'idée d'une incorporation. Désormais, l'intelligence n'a pas à être incarnée. Alors, je distingue ces deux figures dans la mesure où pour le transhumain, Il ne s'agit pas nécessairement d'attenter à la chair qui a été en quelque sorte déposée par l'histoire de l'évolution, alors que dans le post-humanisme, cette chair est, disons, caduque. Alors, c'est paradoxal parce que tous les grands post-humanistes se font, par exemple, cryogéniser, ou Ray Kurzweil, par exemple, a écrit un traité de diététique, mais c'est toujours, disons, des mesures provisoires visant à maintenir le vaisseau corporel tant qu'on ne peut pas atteindre, tant qu'on n'a pas atteint les promesses de développement technique qui rendront finalement ce corps caduque ou dispensable. Donc il y a bien un rapport au corps dans le post-humanisme, mais c'est, on pourrait dire, une sorte de néoplatonisme dans lequel, in fine, le corps est indifférent. La diététique, par exemple, de Kurzweil, est un simple préparatif pour nous permettre d'atteindre la grande synthèse, c'est-à-dire nous permettre de vivre assez longtemps pour arriver jusqu'au grand événement qui va survenir et qui sera du même ordre que la découverte de l'Amérique. Alors, quelle est la fonction philosophique du post-humanisme? Parce que là, j'adopte une position un peu critique par rapport à cette doctrine. Il me semble que son intérêt, c'est de prendre acte du fait, justement, que la sélection naturelle n'est pas la providence divine et qui nous interroge sur notre volonté ou notre pouvoir de refaire ce qu'un processus aveugle et contraint, la sélection naturelle, a bricolé tant bien que mal. Si toute l'espèce humaine est finalement un produit bancal, né de contingence, alors pourquoi ne pas la réviser intégralement? Peut-on quitter donc le support carbone que l'évolution nous a légué? Peut-on repartir d'un support silicium? Donc le transhumanisme prend acte de l'évolution et le post-humanisme n'en retient que le fait que l'évolution a produit des êtres intelligents. Et il me semble que ce vers quoi nous oriente la question du cyborg, c'est plutôt vers la question du transhumanisme, c'est-à-dire que le cyborg, dans son identité double, le fait que cyborg, c'est un néologisme formé sur la conjonction de deux termes, cybernetic organism, c'est ça l'origine du terme cyborg, ça nous indique bien que cyborg est nécessairement un ajointement, un attellement entre deux entités différentes. Et donc on est plus du côté du transhumain avec son hybridité que du côté du post-humain avec sa volonté d'un devenir décorporé. Alors, le deuxième point important ici à évoquer, c'est la philosophie de la technique qui est sous-jacente à la question du cyborg. En général, on a l'idée que les outils, en quelque sorte, sont forment un règne donc à part du monde des vivants. Or, ce qu'ont rappelé un ensemble de penseurs, depuis Darwin et en France, on peut relever en particulier l'importance de la pensée de Georges Canguilhem sur ces questions, c'est que finalement, derrière chaque outil, il y a un organisme qui produit l'outil. Donc que les outils et les machines ne sont pas des ennemis des organismes, mais que les outils et les machines sont avant tout les organes extérieurs des organismes. Comme nous avons des organes intérieurs pour réaliser certaines tâches, et bien de même, nous avons des organes extérieurs qui nous permettent de réaliser d'autres tâches. Les organes extérieurs que sont donc les outils et les machines, bien loin d'être les ennemis des organismes, seraient simplement une manière de prolonger, de projeter, de compléter les organes internes. Voilà, ça me semble un point très important à rappeler, hein, et donc voilà, cette idée que la technique est une stratégie vitale. Et en même temps, ça ne me semble pas suffisant pour penser la question cyborg. Alors qu'est-ce que ça nous permet de dire? Ça nous permet de dire d'abord la technique est naturelle. Ça veut dire que la technique est nécessairement reliée à l'organisme, c'est-à-dire si on prend cette idée au sérieux, que l'humain est nécessairement toujours déjà équipé. Donc, pour le dire vite, nous avons toujours déjà été cyborg. Voilà. Simplement, si on s'en tient là, il me semble qu'on ne prend pas en compte une sorte d'inquiétude qui est inhérente ou qui hante la figure du cyborg. Donc c'est pour cela que j'ai proposé dans mon ouvrage, et c'est quelque chose d'à la fois important et difficile, de distinguer entre deux figures que j'ai appelées organorgue et cyborg, simplement pour dire quoi ? Simplement pour, disons, rendre justice à l'inquiétude qui se trouve au cœur du concept de cyborg. Et face à cette figure inquiète du cyborg, je propose donc le terme d'organorgue, ça veut dire juste organisme outillé, pour dire l'organisme outillé, ben c'est ce qu'on connaît très bien. C'est l'humain qui a des vêtements, l'humain qui a une massue, l'humain qui a un marteau, l'humain qui a des lunettes. Donc c'est souvent ce qu'on dit quand on dit on est tous des cyborgs parce qu'on a des lunettes et des habits. Et même parce qu'on a un langage, en fait, ça commence là. On va retrouver cette question du langage un peu plus loin, mais voilà. Donc pour éviter que tout le monde soit cyborg toujours déjà, il me semble qu'il faut faire la distinction entre, d'une part, l'organorgue, c'est-à-dire l'organisme outillé mais sans dépendance par rapport à ses outillages, et puis le cyborg où on a un couplage qui est potentiellement violent et où il semble que la machine et l'organisme fonctionnent de pair. Alors quelle est cette inquiétude que Bergson, Canguilhem, etc. ne nous permettent pas de vraiment prendre en compte, et que, en revanche, les fictions, les mangas, les blockbusters hollywoodiens, etc., nous permettent très bien de percevoir. Cette inquiétude, je vais donc l'illustrer. Le personnage de Robocop, par exemple, nous montre très bien ce que c'est que d'être dépendant d'un propriétaire. C'est-à-dire le corps organique brut, celui qu'on connaît d'ordinaire, il doit aller voir le docteur de temps en temps, mais en général, il appartient à personne sinon à moi-même. À partir du moment où j'ai introduit dans mon corps tout un tas de logiciels, etc., j'ai abdiqué, en quelque sorte, une partie de ma liberté. Voilà. Donc il y a une sorte de mise sous propriétaire qui est opérée par cette emprise de l'organisme sur l'organisme. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une instrumentation qui s'opère, c'est également une forme d'aliénation, de mise en dépendance. Alors, dans le film Robocop, c'est une sorte de mafia politico-militariste, enfin, voilà. Les autres questions qui hantent la question du cyborg, on les voit ici dans le manga Ghost in the Shell, ce sont des questions de maintenance, mais également des questions auxquelles on est de plus en plus sensible, je crois, des questions d'obsolescence programmée. Être en dépendance d'objets techniques, l'ordinateur dont je ne citerai pas la marque qui m'accompagne ici, toute personne qui a utilisé cette marque, et sans doute les autres c'est pareil, sait qu'il y a de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire au bout d'un moment, vous êtes obligé de renouveler le matériel, que vous le vouliez ou non, même s'il fonctionne encore bien, vous êtes obligé de le changer pour différentes raisons. Voilà, donc obsolescence programmée, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes obligé de payer des redevances régulièrement pour continuer à fonctionner. Donc ça, c'est très important. Outre la question de la maintenance, du bug, de la réparation nécessaire, vous avez cette question de l'obsolescence programmée comme moteur de la croissance économique et des bénéfices des entreprises dans laquelle vous êtes supposé abonder. Autre question, en fait, c'est que, on le verra aussi peut-être tout à l'heure, la question de la réparation, la question du soin ici, dans ce manga japonais qui s'appelle Rujin Z, vous avez donc ce vieux monsieur qui va être assisté d'une grande machine qui va subvenir à tous ses besoins, voilà, qui va faire l'infirmière, la super infirmière du 21e siècle. Finalement, on s'aperçoit, on y reviendra tout à l'heure encore, que à travers ces questions de soins, en réalité, ce qui s'immisce, c'est la question du militarisme, c'est-à-dire en fait ce qui s'expérimente à travers cette question du soin, c'est la question du super soldat, et voilà. Donc j'y reviendrai peut-être dans un instant. Voilà en gros mes grands préambules introductifs. Maintenant je voudrais travailler sur ces ambiguïtés en prenant quatre questions exemplaires, quatre portes d'entrée qui vont nous faire aller à différents niveaux en fait. Le premier niveau, c'est le voyage dans l'espace. Alors, j'ai choisi le voyage dans l'espace parce que c'est typiquement quelque chose qui nous fait rêver, quelque chose où justement la question de l'équipement est fondamentale et quelque chose, un thème sur lequel, en fait, la question du cyborg a été formulée pour la première fois en tant que telle. Donc, c'est en 1960, dans l'ouvrage, enfin, dans le texte, pardon, publié dans le magazine Astronautics par deux auteurs, Kleins et Klein. Ce sont eux qui proposent le terme cyborg, cybernetic organism, comme un néologisme, comme une solution au problème du voyage dans l'espace extraterrestre. Alors, pour Kleins et Klein, en fait, la manière la plus simple de voyager dans l'espace, c'est de s'entourer d'une sorte de bulle de notre environnement natif qu'on transporterait avec nous. Mais le problème de cette solution, c'est que la bulle risque toujours d'éclater, quoi. C'est fragile, une bulle. Donc, pour éviter ces bulles trop fragiles, le plus simple, c'est, au lieu de transporter notre environnement avec nous, c'est de travailler sur notre organisme de manière à ce qu'il n'ait plus besoin du même environnement. Bon. Donc là, c'est la question que vous voyez, enfin, ce que vous voyez sur ce rat ici. La pompe osmotique, en fait, à laquelle le rat est relié, c'est une manière, finalement, de dire on va adapter l'organisme à son environnement plutôt que l'inverse. La fonction de la pompe, c'est de préadapter en quelque sorte l'organisme à toutes les circonstances qu'il pourra rencontrer, et quand bien même l'organisme n'aurait pas été naturellement préparé à faire face à tel ou tel environnement. Donc, de quoi s'agit-il par le cyborg ? C'est d'abord l'idée d'un individu qui serait préparé par la chimie, par l'hypnose, à la vie prolongée dans l'espace. C'est un sujet donc savamment drogué, à qui on va distiller toute une pharmacopée en fonction de ses besoins. Quand on voudra l'éveiller, on lui donnera des euphorisants. Quand on voudra le protéger de rayonnement, on lui donnera des substances chimiques déterminées. Pour la question de la nourriture, plutôt que de procéder selon la voie que nous connaissons, qui est quand même lourde de déperdition, on fera une alimentation grâce à des sondes qui permettront également de stériliser les intestins. La respiration, de même, activité coûteuse en eau et en énergie, sera superflue. Il y aura un système qui permettra de convertir automatiquement le CO2 en oxygène et qui se substituera aux poumons. Donc, en fait, vous voyez ce dispositif dans lequel chacun des organes ou chacune des fonctions organiques est finalement déconnecté pour être remplacé par un dispositif technique. Alors, le but est bien sûr de voyager dans l'espace, c'est-à-dire de faire face également à des temps longs, à une longue durée du voyage dans l'espace. Mais évidemment, il y a des risques, comme des risques d'atrophie, des risques de nausées, des risques de vertige, des risques de besoins érotiques, tout cela. En fait, finalement, il n'y a pas de problème. On pourra prévoir des pompes osmotiques d'urgence qui pourront régler l'ensemble de ces problèmes. Alors, il y a une double leçon, finalement, de ce cyborg. C'est d'un côté, l'intérêt de ce dispositif, c'est effectivement que l'organisme n'a plus à faire face, à se préoccuper de ses besoins physiques. Et donc, à partir de là, l'esprit se trouve comme libéré pour faire face à différentes tâches. Mais symétriquement, c'est toute tout un contrôle qui s'établit à la fois sur l'organisme, on l'a vu, puisque toutes les fonctions sont déconnectées, mais également sur l'esprit et les pensées, puisque désormais, en fonction des substances que l'on injectera dans mes sondes, eh bien, je serai euphorique ou au contraire déprimé, etc. Donc voilà, à la fois une politique de la libération et une politique du contrôle. Ça, c'est le double sens du cyborg originel. Ensuite, par rapport à ce qui s'est passé en 1975, c'est donc le moment où l'Apollo américain et le Soyouz soviétique s'abouchent. Alors, on a pu décrire comment ces deux capsules se sont donc abouchées sans qu'aucune n'ait voulu endosser la position de femelle ou de pénétrer. Hein. Donc, certains auteurs décrivent les tractations pour éviter que, dans cette grandiloquente tuyauterie spatiale, un des deux partenaires ait pu être donc pénétré. Donc, trouver un dispositif qui soit neutre au niveau de la mise en relation. Mais également, on voit ici donc cette grande affaire à la fois technique, diplomatique. Également, il y a une sorte d'arrière-plan où on pourrait se demander dans quelle mesure les héros de l'espace qui donc rampaient pour aller se serrer la main avaient ingéré des pilules de l'omotil, un antidiarrhéique, pour le cas où les gaz qu'ils étaient conduits à inhaler leur déclencheraient une colique. Donc vous avez tout cet arrière-plan en fait qui est mis en avant par une féministe critique qui s'appelle Mary Daly qui s'attache à cet épisode en fait de 1975 comme un moment clé de la robotitude. Alors qu'est-ce qu'elle appelle la robotitude ? C'est un état d'aliénation de la femme, l'état de servitude des femmes dans le monde technique robotisé. Donc évidemment, vous voyez pas trop la place des femmes, mais vous voyez l'essence de la technique ici qui se joue avec des hommes qui se serrent la main dans un dispositif où personne ne veut faire la femme. Et pour Dali, c'est ça qui nous révèle l'essence de la technique quand on le transpose sur Terre, par exemple, à toute la manière dont les techniques veulent prendre le corps féminin comme objet dans tout ce qui concerne utérus artificiel, procréation médicalement assistée, etc. Voilà. Donc c'était pour introduire un peu le thème. La technique a-t-elle un sexe dans notre affaire ? Mais bon, sans aller jusque-là, notre voyage dans l'espace, il nous montre quoi ? Il nous montre donc la figure du cyborg comme une tension entre contrôle et liberté, une tension que vous avez exacerbée bien sûr dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Il nous rappelle également que la conquête de l'espace est liée à le programme de la guerre des étoiles, hein, c'est-à-dire la guerre des étoiles, avant d'être un film, c'est un programme militariste américain, une ligne de 84 milliards de dollars dans le budget de la défense états-unienne en 1984. Voilà. Deuxième thème que je voudrais aborder, là on redescend en quelque sorte, c'est la question du téléphone portable. Le téléphone portable, donc on voit souvent son aspect pratique. Certaines personnes s'amusent à voir comment ça, on pourrait réécrire des scènes du cinéma. Docteur Jivago retrouve Lara parce qu'il arrive à l'appeler et donc le film se termine différemment. Taxi Driver aussi qui n'a plus grand sens puisque désormais les chauffeurs de taxi ne sont plus du tout isolés dans leur voiture. Ou bien 7 ans de réflexion où l'époux n'a plus à rester à la maison pour attendre que son épouse l'appelle tous les soirs à 22h puisqu'il peut sortir. Donc on a ces nouvelles possibilités de vie offertes par le téléphone portable. Alors j'ai pris ici comme entrée un livre d'Agamben qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un dispositif ?» et qui place le téléphone portable sur sa couverture. Alors en guise de téléphone portable, bon, c'est un livre de 2007, donc c'est déjà il y a très longtemps, ça fait 6 ans, et donc en guise de téléphone portable, vous voyez ce que c'est quoi. C'est une sorte de préhistoire du téléphone portable, ou ce que nous on appelle téléphone portable, qui en réalité devrait plutôt s'appeler ordiphone, comme l'ont proposé les Québécois. C'est ce qu'on appelle aussi smartphone. Hein. Je ne sais pas s'il y a un autre mot que ordiphone, qui n'est pas très parlant et qui n'est pas très usagé. Utilisé, pardon. Alors, que veut faire Agamben dans ce livre ? Il veut analyser le téléphone portable comme un dispositif. Alors, dispositif, c'est un terme qu'il emprunte à Michel Foucault et qui désigne des vastes ensembles d'éléments hétérogènes qui articulent des relations de pouvoir et de savoir. Foucault parle d'un ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, donc du dit aussi bien que du non-dit. Donc on voit bien comment tout cela s'applique, au moins partiellement, au téléphone portable. On a des ingénieurs qui innovent, on a des riverains qui protestent contre l'installation d'antennes relais, on a l'État donc, qui vend des licences, des grandes entreprises qui acquièrent des brevets. On a tout ça qui fait dispositif donc. Alors qu'est-ce qui fait problème dans le dispositif ? C'est que le dispositif devient pour Agamben un ensemble alors, de pratiques, de savoirs, de mesures, d'institutions dont le but est de gérer, de gouverner, de contrôler, d'orienter les comportements, les gestes et les pensées des humains. Autrement dit, par le téléphone portable, ce n'est pas juste une grande affaire qui convoque différents registres des institutions et de la société, c'est une manière de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Donc c'est ça qu'est un dispositif, et c'est à ce titre que le téléphone portable s'apparente à un dispositif. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ici dans la figure du téléphone portable ? Du point de vue d'Agamben, pas vraiment. Le stylo, dit-il, l'écriture, la littérature, la philosophie, l'agriculture, la cigarette, la navigation, les ordinateurs, le langage même, sont déjà des dispositifs. Évidemment, sans le langage, on n'aurait pas toutes les idées qu'on a. D'accord ? Donc le premier des dispositifs, c'est le langage. Alors, pour moi, c'est ici que la critique du téléphone portable comme dispositif retombe un peu comme un soufflet. C'est-à-dire, on nous a donné un outil, le concept de dispositif, pour faire la critique sociale et politique d'un outil technique dont on nous dit qu'il est pas seulement quelque chose d'amusant et qui nous permet d'être en relation avec nos amis et d'envoyer des photos, mais également un dispositif qui façonne donc nos manières de penser, nos manières d'être, et donc qui attente d'une certaine manière à notre liberté, ou à notre indépendance, à notre autonomie. Et en même temps, dans un deuxième temps, on nous apprend que finalement, un stylo, c'était déjà un dispositif. Donc, dans quelle mesure le téléphone portable a un statut particulièrement net ? Dans la mesure où dispositif n'est pas le propre d'un outil technique particulier, mais que, en fait, dans l'ontologie d'Agamben, il y a juste deux choses, deux types de choses. Il y a d'un côté des dispositifs et de l'autre côté des êtres vivants. Voilà. Et si on n'est pas un être vivant, on est forcément, d'une manière ou d'une autre, du côté des dispositifs. Donc, je crois qu'il y a une question intéressante qui est posée par le dispositif, mais que la question, finalement, que l'on doit trancher, c'est de savoir s'il y a un caractère propre à l'époque actuelle. Et c'est en ce sens que j'ai proposé de distinguer l'organorgue du cyborg, c'est-à-dire, c'était pour dire, peut-être qu'il y a quelque chose de propre aux techniques actuelles, dont le téléphone portable, mais pas seulement lui, et c'est cela que nous devons prendre en compte si nous devons comprendre ce que c'est que le cyborg. Mais si c'est juste pour dire que toute technique est un pharmacone, c'est-à-dire qu'elle est à la fois un remède et un poison, etc., si on pouvait déjà le dire de l'écriture, ça perd de son intérêt. Je vais passer un peu puisqu'il est déjà tard. Mais disons, voilà en gros les questions liées au téléphone portable. Et pour moi, ce qui est important, c'est de répondre à des questions comme « Y a-t-il un bon usage du téléphone portable ?» Et peut-on s'en tenir à la simple dénonciation du téléphone portable ? Ne doit-on pas, au contraire, prendre en compte les différents modes de subjectivation qui sont portés par le téléphone portable ? C'est-à-dire, que nous dit le téléphone portable de nos manières d'être sujets aujourd'hui quand nous avons dans les mains cet outil ? Je passe sur Ginger. Troisième thème que je voulais évoquer, je serai très bref, simplement pour dire que le monde cyborg est en général décrit comme une bulle bienheureuse, une bulle dans laquelle tout fonctionne. C'est le régime de la domotique, si vous voulez. Voilà. Dans la maison cyborg, tout fonctionne. Ce que je veux simplement dire, et je le montrerai à partir de cette image d'un manga où interviennent beaucoup de cyborgs et qui s'appelle Gunmu, Rêve d'une arme, c'est que sous la ville idéale, qui incarne en quelque sorte la bulle cyborg, il y a toujours une décharge. Il y a toujours une décharge. Et aujourd'hui, donc, on nous vend des tablettes, par exemple, mais il y a un devenir des tablettes, un devenir poubelle des tablettes, voilà, qui est passé sous silence, en quelque sorte. et qui permet de retrouver l'opposition entre les riches et les pauvres que Samuel Butler mettait en avant sur un mode ironique. Donc cette question de la décharge, qui est à mon sens l'envers nécessaire de la bulle cyborg, et peut-être un film comme Gravity nous permet de percevoir un peu cet envers, puisque dans le monde cyborg spatial, l'espèce de space opéra, tout à coup font éruption justement des déchets incontrôlables qui sillonnent l'espace et qui font de cet espace supposé vierge un lieu plein de dangers et de morts. Donc la bulle cyborg n'est plus isolable et il est difficile ou impossible de distinguer entre un intérieur et un extérieur. Enfin, dernier thème que je vais traiter rapidement, c'est la question du handicap. Voilà. Alors, les liens entre cyborg et réparation, ils sont très anciens. Astro Boy, c'est déjà une histoire de réparation. C'est un petit enfant qui va mourir et on le robotise, entre guillemets, pour le sauver. C'est, je le disais tout à l'heure, également la porte d'entrée des militaires pour obtenir l'augmentation. Si on dit nous allons augmenter l'humain, la demande ne sera pas acceptée puisqu'elle est, disons, on va dire, mais pourquoi augmenter l'humain ? On est très bien comme ça. En revanche, s'il s'agit de réhumaniser, de réparer l'humain, alors la question se pose différemment et devient socialement acceptable. Par exemple, la figure de Claudia Mitchell, ici, elle raconte dans ses interviews que finalement, elle, quand elle voulait manger une banane, par exemple, donc l'exemple n'est pas neutre, elle se sentait comme un animal et maintenant, grâce à son nouveau bras, elle a retrouvé donc une forme de dignité et d'humanité. Mais entre un bras qui simplement répare et restitue, rétablit dans la dimension humaine, dans la dignité d'humain, et un bras qui va augmenter, améliorer, permettre de nouvelles fonctionnalités, la frontière est parfois difficile à tracer, comme l'indique par exemple la figure médiatique de Pistorius, qui est... qui a, on pourrait dire, transformé la signification philosophique de la prothèse. La prothèse, aujourd'hui, n'est plus donc, simplement un faute de mieux qui vient se substituer aux organes natifs quand ceux-ci font défaut. La prothèse devient donc une manière d'atteindre une forme de surhumanité, c'est-à-dire de réaliser des performances inédites que le corps organique ne permettait pas d'obtenir. Donc la question cyborg est toujours liée à la réflexion sur la réparation de l'humain, la réparation étant la porte naturelle ou la porte socialement acceptable de l'augmentation. Je voudrais simplement indiquer finalement comment, à partir de cette question du handicap, on peut... réfléchir plus largement sur la question du normal et du pathologique, puisque c'est un thème finalement essentiel de la question cyborg. Je m'appuierai ici sur des réflexions passionnantes développées par Alice Domura-Dreger dans un livre, One of Us, qui porte en fait sur les jumeaux siamois en fait. Donc on est très loin de la question cyborg en apparence, mais en fait, à partir de là, Dreger, qui a également travaillé sur les intersexes, réfléchit sur la relation du normal et du pathologique. Elle s'interroge sur les comptoirs de la marque de produits de beauté clinique où l'anti-âge est présenté comme une question de santé. C'est-à-dire la question de la réparation, finalement, voilà. La question que je voudrais poser, c'est où commence le handicap ? Est-ce que vieillir, c'est déjà une forme de maladie qu'il faudrait réparer ? De même, le Viagra, le Botox, etc. sont de plus en plus approchés hein, comme venant traiter médicalement des pathologies, des problèmes. Donc, ce que note Dreger, c'est que on attribue de plus en plus rapidement et de plus en plus largement, c'est-à-dire à un champ, à un spectre toujours plus large de phénomènes, des questions de normalisation médicale. La médecine normalisante, la médecine améliorative, prend une place de plus en plus importante. Cela concerne également la ménopause. Donc, pour cela, elle nous invite à prendre un peu de recul historique sur nos conceptions du normal et du pathologique. Alors, elle prend deux textes. Elle prend un texte de 1851, écrit par un médecin américain, qui explique que les Africains sont inadaptés à la société du fait de leur organisation et du fait de l'organisation physiologique, en fait. Inadaptés donc à la société et aux devoirs qui reviennent à un homme libre. Les Africains, écrit cet auteur qui s'appelle Samuel Cartwright en 1851, donc, sont comme les enfants. Ils sont seulement adaptés à un état de dépendance et de subordination. Et donc le problème, nous dit Cartwright, le problème des Noirs aux États-Unis, c'est que le nègre, dit-il, est un esclave par nature. Voilà. Donc c'est parce qu'il a une sorte de constitution pathologique qu'il est incapable, qu'il est en quelque sorte handicapé dans la société des hommes libres. Voilà. Ça, c'est un premier point. Pour Cartwright, donc, en 1851, c'est le handicap africain inhérent qui l'empêche d'être libre. Et ce n'est pas la société qui est responsable de ça. De même, dans les années 1850, aux États-Unis, un médecin nommé Williams supposait que les femmes ne devaient pas être médecins. Et que nous dit Domura Dreger par rapport à ça? Pourquoi elle va chercher ces réflexions-là? C'est pour nous dire que finalement, la solution est de changer la société, en l'occurrence de changer les esprits, plutôt que les corps. Et c'est la leçon, une leçon identique qu'on peut tirer du mouvement des droits pour les handicapés. Il ne s'agit pas de se focaliser sur des individus, dire un tel ne peut pas faire ça parce qu'il est aveugle ou parce qu'il est en fauteuil, mais sur la société. Le fait simplement que la société s'accommode mieux à certains corps qu'à d'autres. Et donc elle termine son livre en évoquant une sorte de marche, de protestation, de manifestation, si vous voulez, qui réunirait par exemple des jumeaux siamois. Et elle dit, ça nous paraîtrait peut-être un ensemble d'anatomies inhabituelles, mais peut-être qu'on qualifierait ça de monstruosité, mais elle dit, peut-être que il faut se rappeler à ce moment-là que les mêmes propos ont été opposés aux suffragettes, aux manifestants pour les droits civiques ou aux gays et lesbiennes quand ils ont manifesté pour leurs droits. Elle dit de même, le traitement médical et social des enfants et des adultes avec des anatomies inhabituelles peut sembler au-delà de toute critique parce qu'il est, il a une intention bonne, mais il faut se prémunir contre le paternalisme qui préside à notre regard sur ces questions. Donc cette question du handicap, elle est très importante ici, et c'est pour ça que je veux terminer par là, parce que finalement, si on revient en amont, si je boucle mon propos sur Barjavel, qu'est-ce qui révolte Barjavel dans la technique? C'est le fait que nous soyons handicapés dès lors que nous sommes privés de nos techniques. Le fait que les humains, pour réaliser certaines fonctions, dépendent des techniques. C'est-à-dire que les humains sont habitués à évoluer dans un environnement assisté. Et dès que nous sommes soustraits à cet environnement assisté, nous nous trouvons dans l'embarras. Dès qu'une panne affecte le dispositif, nous sommes tout nus, en quelque sorte. Et un film de fiction comme Wall-E, vous voyez, le film Pixar, là, sur le petit robot, mettait bien ça en scène, puisqu'on voyait des humains donc, qui, à force d'être assistés par des machines, avaient perdu l'usage de leurs jambes, avaient perdu donc cette bipédie qui les caractérise comme humains. Donc, cette question du handicap, généralisée en fait, c'est-à-dire l'idée que finalement tout humain est une sorte d'handicapé qui vit par le truchement de tout un système technique, nous permet de reposer également la question du transhumanisme. Quand Julian Huxley parlait de transhumanisme, il évoquait la nécessité de faire des villes plus accueillantes, et cela implique une révision ou un élargissement de notre concept du normal. Voilà, je vous remercie. Alors, j'avais terminé par quelques...
C'est dommage qu'on n'a pas eu le temps de parler...
Quelques questions j'avais préparées.
Que tu voulais donner, tu étais très intriguée. Gravity,
c'est un film que j'ai vu et qui m'a vraiment aussi intriguée. Il y a ce feuilleton télévisé là, qui est passé, c'est sur les robots.
Les U-Bots, c'est ça les, le film suédois, là, la série suédoise.
Oui, les Human Beings, Humans, c'est ça. Donc qui est très impressionnant parce que justement on voit qu'ils dépendent de la technique puisqu'ils sont obligés de se rebrancher constamment, etc. C'est un film qui... Tu l'as vu, le feuilleton ?
Le feuilleton, je ne l'ai pas vu.
Ah oui, il faudrait que tu le vois. Je suis sûre que tu aurais beaucoup de choses à dire dessus. Ça satisfera ta curiosité. En tout cas, merci, comme d'habitude. Donc, vraiment très fort, ce micro. Donc, la parole à la salle. Vous avez des questions ?
Peut-être. Donc là, je parle de très loin. Peut-être en référence justement aussi à la culture populaire, comme vous l'avez fait plusieurs fois. Je pensais à la série Black Mirror, en fait, la série anglaise, en fait.
Je ne connais pas.
En fait, qui donne qui utilise le nom de ça, les miroirs noirs, en fait, pour traiter un certain nombre de choses, la mémoire, la reconstitution, la mort, et juste en allant un peu plus loin. Dans ce rapport à l'ego, peut-être, est-ce que ces choses-là nous incluent pas aussi? Dans l'idée du... Elles sont externes, mais sont des miroirs aussi. Donc, elles nous incluent d'une certaine manière. Ma question n'est pas très claire, mais je pense que vous avez compris.
Mais en fait, ce que j'entends à travers votre question aussi, c'est... ça reprend un peu ce que je disais à la fin sur la question du handicap. C'est-à-dire, à quel moment on commence à être handicapé et qu'est-ce qui doit être considéré comme une maladie dans la société? C'est-à-dire, est-ce que vieillir, c'est une maladie? Quand les post-humains disent, on va se transposer sur des tablettes numériques, quoi... la question, c'est à quel âge on se transpose sur une tablette? Est-ce qu'il y a un âge idéal pour se transposer sur une tablette? Est-ce qu'il vaut mieux se transposer à la naissance, enfin dès la naissance? Ou est-ce qu'il vaut mieux se transposer à 30 ans, à 60 ans? Quel est le meilleur moment pour se transposer? C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est ça qui, en mon sens, rend la question post-humaine à la fois passionnante et absurde. Passionnante parce qu'elle nous pose ces questions-là, elle nous pose la question de qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que la mort, et est-ce que vieillir, c'est une maladie, et est-ce que la mort, c'est la pire des maladies, finalement? Ou bien est-ce que il y a dans le processus de maturation de l'organisme, de développement de l'organisme, quelque chose de nécessaire et d'incontournable qui fait partie de ce qu'on est, voilà. Donc, sur ces tablettes qui seraient comme des supports de mémoire, hein, oui, c'est passionnant, mais c'est... Ça nous met face à un abîme de questions sur tout ce qu'on ne sait pas de la mémoire humaine, en fait, et de la manière dont elle fonctionne. Mais aussi, sur ces questions-là, dès qu'on parle de mémoire, ce qui est déterminant, c'est la question du... Finalement, ça met en avant immédiatement, ça fait surgir immédiatement la question de la maladie, c'est-à-dire de l'atrocité du destin humain, qui est un destin de à la fois de construction et de destruction, c'est-à-dire à peine... Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, en gros. Il y a déjà cette idée d'une volonté de rejouer une deuxième fois ou de continuer à jouer parce que ce n'est pas possible que tout ce qu'on a appris soit déjà perdu. Donc, ça nous met au cœur de la fragilité de la vie humaine. Et c'est pour ça qu'on développe toutes ces techniques et qu'elles sont le support de tant d'imaginaires, finalement. Ça, c'est sur... ce que vous dites sur la mémoire. Après, sur ce que tu disais, Anne, concernant les U-Bots, ils mettent en question, à mon sens, un problème un peu différent. C'est-à-dire, ici, c'est la question de... c'est plus proche de ce que disait Butler quand il disait on doit apprendre à vivre avec... à partager le monde avec des êtres différents. Et c'est ça, finalement, qui va arriver, peut-être, dans les 50 prochaines années. C'est que le monde va être... habité par des créatures avec lesquelles on n'était pas habitué à interagir. Il va y avoir des nouveaux types d'entités dans les écosystèmes urbains, humains, etc. Et apprendre à vivre avec ces créatures-là, quels droits elles vont avoir, quel devoir elles vont avoir, quelle responsabilité. Si une voiture qui conduit toute seule renverse un piéton, est-ce que c'est la voiture qui est responsable ou est-ce que c'est, est-ce que c'est l'automate qui sera responsable ou est-ce que ce sera le propriétaire légal, le tuteur légal de l'automate qui sera responsable? Enfin, ce genre de questions qu'on est habitué peut-être aujourd'hui à se poser par rapport aux chiens méchants, mais qu'on devra se poser aussi par rapport à d'autres types d'entités.
Attendez, allez-y.
Alors, d'après vous, à quel niveau est-ce que se décident ces questions ou à quel niveau est-ce qu'elles sont discutées? Et est-ce qu'il y a des échéances qui vous paraissent critiques?
Ouais. Alors, c'est ma question 3, là, en fait. Cyborg est-il promesse ou menace? Qui est en mesure de trancher? C'est-à-dire sur chacune...
Voilà.
Ouais. Alors, ma réponse tarte à la crème que je suis en général, mais j'y crois pas une seule seconde, c'est de dire il faut faire des arènes démocratiques de débat sur ces questions. Je crois pas une seule seconde. Mais bon, c'est consensuel, voilà. On dit, il faut qu'on se réunisse et qu'on en parle. C'est pas possible. Et on va décider ensemble de ce qui est le mieux.
Parce que donc, pour l'instant, il y a un comité national d'éthique ou quelque chose comme ça qui existe, mais qui a juste un pouvoir consultatif.
Mmh. Et bien, encore, il traite pas vraiment de ces questions-là, en fait.
Mmh.
Ouais.
Les militaires auront leur mot à dire là, quand même, non ? Parce que ça les intéresse, les cyborgs.
Bah, les militaires, oui, et la fiction, oui. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ces questions-là sont traitées à partir de champs voisins. Donc, par exemple, c'est pas le seul champ qui est en ébullition dans les sciences humaines. Par exemple, le champ de l'éthique animale, c'est très important. Le champ de l'éthique environnementale, c'est très important. Donc comment est-ce que des problématiques posées à propos des animaux se transposent à propos des machines, enfin, des automates, des robots, des tout ce que vous voulez, des hubots, donc maintenant, des humains-robots.
Oui, parce que les animaux utilisés, on avait fait une journée d'études sur l'animal ici, les animaux qui sont utilisés dans les laboratoires sont déjà des animaux, des artefacts, c'est pas l'animal.
Mmh.
On est déjà dans la machine. C'est l'argument que donnent d'ailleurs les gens qui sont... pour les manipulations sur les animaux qui travaillent là-bas, ils disent que c'est pas un animal.
Mais aussi, c'est intéressant de voir que, bon, je parle de l'éthique animale en tant que telle, mais effectivement, alors par rapport à ce que fait le Comité national d'éthique, il y a des problématiques aussi qui peuvent être déplacées. Par exemple, est-ce qu'un individu humain qui aura des nanorobots dans son corps ou des nanoparticules dans son corps qui circuleront pour fluidifier son sang, aller réparer, vérifier qu'il n'y a pas de comment ça s'appelle de thrombose ou enfin de
d'artère
voilà
bouchée.
D'artère bouchée. Est-ce que ça sera un cyborg en fait? C'est pas notre concept de cyborg. Notre concept de cyborg, il est plus attaché à quelque chose d'un peu robotisé. Mais est-ce qu'un humain qui serait juste augmenté, pas de manière visible, mais avec des nanoparticules par exemple, est-ce que ça correspond pleinement à la définition? C'est-à-dire un hybride organique-mécanique qui serait, qui serait un attellement vital en fait, puisque là, les nanoparticules permettraient de préserver la santé de l'individu. Ça serait parfaitement la définition du cyborg, et en même temps, ça serait très éloigné de ce qu'on appelle un cyborg en général.
Mmh.
Donc, il y a plein de cas comme ça qui nous permettent de glisser insensiblement de cas connus à des cas plus problématiques ou plus inconnus. Ce qui est intéressant aussi, puisque vous avez évoqué la question des animaux domestiques, c'est... on voit si on passe de l'animal domestique... je parle du bétail, etc., aux OGM, il y a une sorte de glissement insensible qui permet de passer de l'un à l'autre. C'est que finalement, que faisaient les éleveurs qui avaient des animaux domestiques? Ils sélectionnaient des mutants naturels, on va dire. C'est-à-dire qu'ils attendaient que la mutation apparaisse et puis ils la préservaient. Aujourd'hui, avec les OGM, c'est simplement, au lieu d'attendre que la mutation apparaisse, on provoque des mutations qui nous intéresseraient. Donc finalement, au niveau philosophique, c'est à peu près la même chose. En même temps, ça ne suscite pas du tout le même genre de débat. Et autant personne n'a de problème avec les animaux domestiques qu'on met entre les mains des petits-enfants dès le plus jeune âge, le bétail, les vaches, etc. Alors qu'il s'agit quand même de sortes de monstruosités cultivées, quoi. Hein. Et autant, l'OGM, lui, il est proscrit comme étant inadmissible. Donc, moi, je comprends pourquoi, pour des raisons politiques et sociales, on fait cette différence-là. En même temps, d'un point de vue philosophique, et moi, c'est mon seul métier, hein, c'est de faire des analyses, c'est pas d'être conseiller de qui que ce soit. Je vois pas trop la différence. C'est-à-dire, pour moi, ça relève des mêmes mécanismes, des mêmes principes. Mais donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si on rejette l'OGM en dehors de la communauté parce qu'il est artificiel, pourquoi est-ce qu'on accepte l'animal domestique ? C'est-à-dire les chiens, voilà, qui sont également extrêmement artificiels, les cochons, tout ça, c'est artificiel. Donc, l'artificiel, il n'est pas facile à tenir en dehors de l'humain. C'est ça que j'ai voulu dire aussi en utilisant les textes de Butler au début, pour dire il n'y a pas de retour primitiviste qui est possible. Mais à chaque moment, il y a des décisions à faire. Alors, vous me demandez qui peut les faire. Dans une société comme la société française, il faut des arènes de débat, voilà. Mais la société française, c'est une toute petite société dans un monde très compliqué. Est-ce que ça va se passer partout comme ça ? Sur la question des nanotechnologies, par exemple, quelqu'un comme Drexler, au début des années 90, évoquait le fait que... plutôt au milieu des années 80, en fait, évoquait le fait que sur les nanotechnologies, il fallait que les démocraties soient, en gros, ça voulait dire pour lui les États-Unis, hein, mais soient en pointe de ces recherches, parce que si les États-Unis ne développaient pas ces recherches-là, ça serait les super vilains qui les développeraient. J'emploie encore du vocabulaire fictionnel, hein, pardonnez-moi, mais voilà. En gros, les démocraties empêtrées dans leurs débats internes et leur volonté d'écouter la voix du peuple doivent aussi à un moment prendre en compte la géopolitique de l'innovation, en fait.
C'est un argument qu'on entend maintenant encore. De toute façon, on organisait 5 journées d'études sur les nanotechnologies. Mmh. Et les personnes qui faisaient des démonstrations, et bon, on avait quand même des analyses critiques. Ceux qui étaient pour avaient cet argument-là. Mmh. C'est-à-dire de dire, de toute façon, si on ne le fait pas, les Chinois vont le faire. Mmh. Tout ce qu'on fait aussi, tous les problèmes qui se posent par rapport à l'expérimentation animale, les gens disent, bon, si on ne fait pas l'expérimentation animale, les Chinois le font. Donc on est vraiment dans un monde, en effet, très, 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 très global, qui fait que les technologies doivent aussi être à la pointe, parce qu'il faut qu'on soit pas aussi loin de la course, quoi. Mmh.
Mais c'est ça qui donne en même temps la force d'arguments que j'ai appelés rapidement au début technophobes, comme ceux de Jacques Ellul, c'est-à-dire le sentiment qu'on est en quelque sorte dépossédé du pouvoir de décider, qu'il y a une marche forcée, alors on peut dire au progrès avec des gros guillemets, si vous voulez, mais une marche forcée dans certaines directions et que la capacité de réflexion éthique, la possibilité d'arbitrer, elle nous est retirée à nous en tant qu'individus, elle nous est retirée à nous en tant que nation. Voilà. Donc il y a des choix qui se font par-dessus nos têtes. Et c'est ça qui fait à la fois la grande force et la grande faiblesse de cet argument de « les Chinois le feront ». C'est-à-dire, c'est une manière de court-circuiter toute volonté de réflexion, toute ambition même de tergiverser et un peu de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe au nom d'une sorte de marche forcée vers quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. Et évidemment, voilà, il y a des choix éthiques qui sont fondamentaux. Par exemple, moi, je considère que... je vais aller à gros couteau, là, mais vous me pardonnerez, il est tard. La grande histoire du capitalisme, c'est de conquérir toujours des terres vierges, des nouvelles ressources, quoi. Donc, voilà. Le voyage dans l'espace, c'est une forme d'extension du domaine, quoi. C'est-à-dire, on va s'approprier de nouvelles ressources, hein, on va coloniser de nouvelles ressources. C'est ça, la signification première du voyage dans l'espace. Pour le plus grand bien de l'humanité, bien sûr. Mais bon, c'est ce qu'on va faire. Et la deuxième grande réserve de monde sauvage que le capitalisme peut s'approprier, c'est le corps humain, l'intérieur du corps humain, voilà. Donc, la question de l'augmentation par rapport à la question du corps natif, elle se pose dans ces termes-là, c'est-à-dire dans quelle mesure tenons-nous à préserver le corps humain comme une sorte de réserve de vie sauvage. Voilà. Et c'est ça la question de l'eugénisme aujourd'hui. Quand on entend cet argument un peu plat, mais touchant, de la part, par exemple, on l'entendait beaucoup dans la bouche de Jacques Testard, cette idée qu'il faut préserver la naissance humaine comme une loterie, finalement. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi une loterie, c'est mieux que quelque chose... Une loterie, moi, je perds tout le temps, donc c'est pas terrible. Peut-être mieux, les humains, leur travail, c'est plutôt de faire un monde qui serait plus rationnel, plus juste, etc. Pourquoi s'en remettre à la loterie ? S'en remettre à la loterie, c'est la volonté, justement, de maintenir la naissance humaine comme un lieu sans intervention. Et voilà, tu voulais qu'on parle de Gravity. Ce face à quoi nous met Gravity, c'est cette idée que l'espace n'est plus un lieu vierge de toute intervention. C'est un espace pollué. Voilà. Donc là, il s'agit juste de l'espace autour de la Terre. Mais moi, j'ai été très passionné par une magnifique saga qui s'appelle la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, qui montre comment, justement, voilà, c'est des humains qui partent conquérir Mars. Et quels sont les débats, justement ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il faut laisser à Mars sa nature de Mars ? Ou est-ce qu'il faut faire de Mars une sorte de Terre bis ? C'est-à-dire qu'il faut terraformer Mars. Et c'est intéressant de savoir... voilà. Qu'est-ce que c'est que coloniser l'espace, c'est un rêve finalement dont il est intéressant de voir l'envers aussi, c'est-à-dire tout ce que ça cache d'abord de géopolitique humaine, de rapport entre les puissances, et également finalement ce dont, je ne sais pas si ma phrase va être correcte, ce dont ça nous prive, c'est-à-dire ça nous prive de l'idée que quand on regarde les étoiles, on voit un monde vierge. Aujourd'hui, quand on voit une étoile filante, on dit « Ah ben non, c'est peut-être un satellite, en fait. Je ne sais pas. » Voilà, enfin, il y a un truc, finalement, qui fait que, quand on regarde le ciel, ce ciel qui était ce ciel étoilé qui était le refuge de la loi morale chez Kant, bah, aujourd'hui, c'est un endroit où on voit notre propre action aussi. Donc, ça nous a... En termes de paysage, il y a un paysage de moins qui est...
La fin de Gravity, c'est une nouvelle naissance. C'est un moment qui est assez quand même symbolique et puis très, très américain, quoi. Je veux dire, c'est d'abord très américain. Ensuite, quand elle revient, elle est née de l'eau et puis elle a du mal à se lever. On a l'impression que c'est un animal. C'est un animal qui se met debout. C'est assez extraordinaire comme moment, d'ailleurs. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? C'est assez fou, quand même.
Ben, par rapport aux arguments que j'évoquais tout à l'heure sur la place des femmes dans la technique... Alors là, l'héroïne est féminine, hein, c'est une femme qui est au centre du débat. Mais pour moi, c'est un film d'un, je dirais pas misogyne, mais masochiste en tout cas, enfin sadique, quoi. C'est-à-dire, c'est une femme qui est passée à la machine à essorer pendant 1h30, et à la fin, au terme d'une sorte d'orgasme, hein, où elle descend en suant sur Terre, elle renaît à ce qui est véritablement le terroir naturel de la femme, c'est-à-dire une terre humide et grasse. Voilà. Donc, bon, c'est un film un peu... Il est intéressant, mais...
Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Parlez derrière.
Non.
Moi, j'en ai une dernière. C'est quelle est la limite entre le cyborg et le monstre ? Parce que quand tu as montré ce rat, c'est un monstre.
Ouais, alors c'est pour ça que j'ai bouclé sur la question du normal et du pathologique, finalement. Parce que c'est... Dans la mesure où l'humain est nécessairement un individu monstrueux, en fait. C'est-à-dire, l'humain nu, on ne le rencontre jamais. Donc, il n'y a pas une forme naturelle de l'humain. Et c'est ça l'horreur de l'anthropologie au XIXe siècle. C'est qu'on voit des humains, mais ils ne nous ressemblent pas. Parce qu'on pensait que nous, on n'était pas transformés ou informés par nos techniques. On a des vêtements qu'on peut reposer. Alors qu'eux, ils ont le nez plat, des os dans les narines, des cheveux comme ci, comme ça. Donc, c'est ça, la monstruosité, elle est là déjà. Elle est dans le fait que chaque humain est en quelque sorte un monstre de l'espèce. C'est-à-dire, il montre ce dont l'espèce est capable et il montre que bah, un corps organique tout nu, ça n'existe pas. Un humain n'est jamais nu, en fait. Donc, la première monstruosité, elle est là et elle nous oblige à penser ce que c'est qu'être un humain normal, du coup. Et la question, pour moi, la question du handicap, elle traverse toute la question du cyborg et elle oblige à vraiment changer le point de vue, en fait. C'est-à-dire, c'est pas le cyborg qui va résoudre la question du handicap, comme on le voit dans les exemples que j'ai montrés, où on présente Pistorius comme un cyborg, etc. C'est au contraire les réflexions qui se font dans le champ du handicap qui nous obligent à repenser ce que c'est que le monde technique dans lequel on évolue. Et la manière dont nous dépendons pour être capables de réaliser certaines tâches d'aménagement, en fait. La question des aménagements institutionnels. C'est pour ça que la question des arènes de discussion, elle est importante, mais elle est insuffisante. Dans les années 30, déjà, voilà, y a quand même une grande étape qui est la Deuxième Guerre mondiale. Avant, tout le monde était eugéniste, à différents degrés. Hein. Après, plus personne ne peut l'être. Et pourtant, c'est cette question-là qui nous revient à travers tous ces thèmes-là. Pourquoi je dis qu'avant, tout le monde était eugéniste ? Mais parce que tous les biologistes écrivaient à quand un programme politique où les candidats diront « Avec moi, vous aurez des nanotechnologies. Avec moi, vous serez capable de vivre 150 ans. Avec moi, vous aurez des jambes sur ressort. » Enfin, je ne sais pas, voilà. C'était ça, les espoirs des années 30, entre guillemets. Alors, évidemment, il y a eu toute une part de cet héritage-là qui a discrédité l'ensemble de la chose. Mais il y avait une sorte de spéculation sur l'avenir possible de l'humanité et qui voulait mettre ces questions-là au cœur de la politique. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus ça du tout. C'est une sorte de tabou, en fait, fondamental. Parce qu'on veut, justement, on est très attaché à l'idée que toutes les différences se valent et que... mais ça, je pense que, malgré tout, ce sont les questions qui sont posées par la thématique post-humaine, en fait, transhumaine. C'est la question de l'avenir de l'humanité et des formes souhaitables pour l'humanité. Quand je dis formes souhaitables pour l'humanité, dans le rapport à la technique. Mais ce qui m'étonne, c'est que ces questions-là sont complètement absentes, en fait, de toute réflexion.
Simplement, il me semble qu'on n'a pas effectivement jusqu'à présent évoqué la force du commercial. L'association Google-NASA, on a parlé des militaires, mais le créneau commercial est très important. Et je voyais tout à l'heure tomber sur mon ordiphone une info. Amazon envisage de faire livrer les livres par des drones. Enfin, je n'ai pas lu encore ça, mais c'est pareil. Le commerce fait aussi beaucoup avancer. Nous mettent d'abord devant le fait accompli, ils ont pris une décision, ils nous mettent, nous, le grand public, je veux dire, devant le fait accompli, et ensuite on organise des forums. Microsoft, d'un côté aussi, qui a changé complètement ce que c'était qu'un ordinateur. Moi, je me rappelle quand je programmais en DOS, je n'avais pas besoin d'un autre OS, enfin d'un OS, et d'un environnement qui était formaté pour ceux qui ne savent pas programmer. Et ensuite, on a eu des forums qui sont apparus pour lutter contre ça, et donc avec Linux, par exemple. Donc c'est quand même le commerce qui nous fait avancer et réfléchir, je pense aussi.
Vous voulez dire que par exemple, parce que la question du logiciel libre, elle est fondamentale. Quand je disais, quand on accepte des techniques en soi, on rentre dans des systèmes propriétaires. La question du logiciel libre, elle est fondamentale. Mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, le logiciel libre, il est à la traîne par rapport aux logiques commerçantes, c'est ça ?
On pose la question une fois qu'on a été confronté au problème. Oui.
Oui,
parce que ce problème des nanotechnologies, en fait, les nanotechnologies étaient déjà présentes quand il y a eu ces discussions qui ont été demandées par l'Académie des sciences pour faire un bilan sur les nanos. Et en fait, ça n'a fait que là où, justement, les associations qui ont été très percutantes et même qui ont carrément cassé les fauteuils, cassé main d'œuvre. justement, il y avait quelque chose, malheureusement, d'assez justifié dans leur action, puisque on est le seul centre ici en France à avoir fait des journées sur les nanos sans avoir de problème. Peut-être parce qu'on est un centre de culture scientifique, mais aussi parce qu'on n'avait pas été accrédité pour le faire, donc on l'a fait de toute façon. Mais ils ont fait des journées nano dans des villes comme Grenoble, etc., où il y a des grands centres informatiques, où déjà les gens sont, le public est mobilisé contre les nanos. Donc ce que dit madame est vrai. Malheureusement, il s'avère qu'on se pose des questions quand justement, soit on a fait des monstres, c'est la même chose qui s'est passée avec les médicaments, on en a parlé l'autre jour, mais pas en amont des problèmes, quoi. Pas en amont des problèmes, et justement, c'est la raison pour laquelle la philosophie est très importante, Thierry.
J'espère. Mais je crois que l'ensemble des questions qu'on doit se poser, c'est ça fait intervenir différents acteurs. Aujourd'hui, on croit assez à l'État, en fait, que l'État va nous protéger. Enfin, en France, en tout cas, on croit assez que l'État, il a une fonction, de ce point de vue-là, à jouer très importante. Si on regarde l'histoire du XXe siècle, l'État, il n'a pas fait que des merveilles. Hein, donc, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'en France, voilà, l'État, il a une fonction à jouer de ce point de vue-là. La société civile, elle a une fonction très importante aussi. Et vous, ce que vous mettez en plus dans la partie, c'est tout justement, ce que je vais appeler très platement les entreprises. Mais entreprises, on a l'idée d'un peu un capitalisme à la papa, enfin, alors que ça peut être des instances beaucoup plus... international, multinational, etc. Or, en fait, on suppose que ces trois pôles sont indépendants. Mais dans la trilogie martienne que j'ai évoquée, en fait, les États, ils n'existent plus vraiment, en fait. Ils ont été remplacés par les entreprises, en fait. Les entreprises, évidemment, le budget d'un État, c'est ridicule par rapport au budget d'une grande entreprise. Donc, les entreprises ont racheté les États, entre guillemets. Elles ont financé leurs dettes. Voilà. Donc, est-ce que l'État et les entreprises vont avoir à l'avenir des rôles différents, vont constituer des instances décisionnaires différentes. Qu'est-ce que c'est que la société civile? Elle est structurée, travaillée par tout ce qui concerne les lobbies, etc. Donc, c'est pour ça que l'idée des arènes de discussion, c'est une très belle solution sur le papier, après, à mettre en œuvre pratiquement. Et en fait, pourquoi est-ce que les gens cassent les chaises? C'est parce qu'ils ont l'impression que le débat est noyauté, en fait. Voilà. Donc, c'est... C'est toutes ces questions. Alors, voilà, merci.